Salut, je suis Mangabo et c'est un plaisir pour moi de vous retrouver, si, de vous retrouver dans le challenge Startup. Et nous allons parler aujourd'hui des 4 pièges dans lesquels des gens qui lancent leur propre entreprise peuvent très, très, très facilement tomber parce que, effectivement, ils n'ont pas toujours, effectivement, on le comprend, le courage d'aller très très loin dans l'aventure entrepreneuriale. Donc, on appelle ça un petit peu l'entrepreneuriat de surface. Elle permet de se créer son propre emploi, mais on ne crée pas vraiment, vraiment une valeur exceptionnelle. Et donc, c'est ce dont je vais parler aujourd'hui avec deux amis et associés, coach. À des TNC Group, Samson Gagbo, qui est marketer, digital marketer ou bien personal branding. Bon, salut Samson.
Salut Eman.
Voilà, donc très content de pouvoir discuter de ce sujet avec toi.
C'est un plaisir.
Voilà, et puis il y a Blessing, qui est la directrice dans le pays de HEC à Accra, ici d'ailleurs, à Accra, au Ghana, hein, où nous sommes en train d'enregistrer ce podcast. Salut Blessing, comment tu vas?
Bonsoir Eman, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente d'être là ce soir pour qu'on puisse encore discuter de certains challenges qui affectent le secteur entrepreneurial.
Ok, good. Donc, on parle d'entrepreneuriat de surface. Hein. Donc, comment vous voyez la chose, comment vous vivez la chose? Est-ce que c'est vrai que les gens ont peur de se lancer à fond dans leur entreprise et parfois on a une petite entreprise à gauche et puis on a un emploi quelque part? Comment vous voyez la chose? Parce qu'à la fin de la journée, c'est pas pour autant pour dire qu'il y a quelque chose de mauvais en la matière. Mais comment vous voyez ça? Comment vous vivez ça? Et en quoi ça peut être un challenge pour l'inspiration d'autres personnes à créer une entreprise?
Ça me semble. Salut à tous. C'est un plaisir pour moi aussi d'être ici avec vous. Oui, c'est vraiment un gros challenge en ce sens que tout le monde, nous savons tous ici que l'entrepreneur, c'est un risque. Et celui qui veut entreprendre, s'il n'est pas prêt à prendre ce risque, il aura du mal à décoller.
D'accord.
Okay? C'est le challenge que la plupart des entrepreneurs, des jeunes entrepreneurs qui veulent entreprendre, ont du mal à décoller. Bon, aujourd'hui, lorsque tu veux entreprendre, il faut d'abord ce que nous appelons le personal branding, la marque personnelle. Mmh. Okay?
C'est ton sujet favori, j'imagine. Tu ne pouvais pas me rater sur ça.
Merci. Bien sûr, aujourd'hui, avant de créer sa propre entreprise, il est important de développer sa marque.
Okay.
Parce que sans que vous ne développez pas votre marque, vous ne pouvez pas vendre sur le marché. Alors, développer sa marque, ça veut dire que vous allez faire valoir votre expertise, vous allez vous faire connaître. Okay? Pas votre auditoire, par rapport à votre public cible. Okay? Alors maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut maintenant commencer par apporter une valeur ajoutée aux gens. Commencer par se faire connaître et dire aux gens, voilà ce que je suis en train de faire. Maintenant, il y a ce que nous appelons le gratuit. Quand vous commencez par faire valoir votre produit, bien, votre personnalité, il est important pour vous de commencer par dire aux gens, ok, voici ce que je suis en train de faire.
Ok, très bien. Et là, Blessing, comme le disait Samson, il faut y aller. Et puis il y a des états, on arrive à un moment donné et puis on se dit, bon voilà, les difficultés sont nombreuses. Ah, tiens, il ne faut pas que j'augmente trop les charges. On a peu d'employés et on ne sait pas exactement ce qu'on apporte. Et effectivement, Samson, comme on emballait, on tombe dans le premier piège qui est de l'entrepreneuriat de surface. Donc, qui est le piège du freelance. Donc, je ne veux pas avoir un bureau, effectivement, donc je vais rester chez moi. Et de temps en temps, j'ai des petits jobs, des opportunités d'affaires que je saisis. C'est ça aussi, entreprendre?
Moi, j'ai une idée totalement différente de l'entrepreneuriat.
D'accord.
Comme ça, si on le disait, entreprendre, c'est d'abord prendre un risque, une décision.
D'accord.
Je décide de me mettre au service du monde.
D'accord.
Ce qui signifie que je vais d'abord... Ça sera évident pour moi de passer par l'étape du détachement.
D'accord.
Mais ce qui fait
détachement,
que...
c'est-à-dire?
On parle de freelance,
ouais.
Ce qui signifie que tu es déjà engagé quelque part.
Très bien.
Mais dans le cas où tu veux devenir entrepreneur, tu dois te détacher de où tu étais,
mm-hmm.
et créer maintenant quelque chose qui sera comme si on a dit ta marque personnelle.
D'accord.
Qui va apporter un plus à l'humanité. Mais moi, je pense que ce qui fait peur, c'est comment assurer ses lendemains.
Le quotidien même. Lendemain, la semaine, ouais.
Voilà, comment assurer son quotidien? Comment du jour au lendemain, je vais me faire connaître? Comment du jour au lendemain, je vais emmener les gens à venir acheter chez moi. Du coup, je me dis, bon, Je fais un pied dedans, un pied dehors. Un pied dedans, si ça marche, ok, c'est bien pour moi. Un pied dehors, si je suis toujours dans mon entreprise, c'est clair que j'aurai mon salaire. Donc, que ça marche là-bas, que ça ne marche pas, j'aurai forcément quelque chose.
Blessing, ça me semble, effectivement, moi je suis un passionné du développement et je pense que l'Afrique particulièrement a besoin de créateurs de richesses. On a besoin certainement de gens qui créent des filières. C'est pourquoi je suis très impressionné par si, quand on prend Côte d'Ivoire par exemple.
Ouais.
Donc, c'est des gars qui créent une filière et qui nourrit des milliers de personnes.
Des milliers de personnes.
En plus de gagner de l'argent, on a Agricam, par exemple, au Cameroun. On a Agrisach au Bénin, par exemple. Donc, c'est des gens qui créent des filières. Et autour de ces filières, il y a une chaîne de valeur qui est créée. Et ils deviennent de vrais acteurs de développement. J'écoutais un jour le patron de Agrisach, qui se trouve être le président de la chambre de commerce d'industrie du Bénin. Il disait qu'au départ, quand il a créé son entreprise, c'est effectivement c'est d'être utile à quelque chose. Mais aujourd'hui, il ne peut, peut pas dire, voilà, j'arrête. Parce qu'il y a des milliers de gens qui dépendent de la filière qu'il a réussi à créer à travers les œufs et puis voilà, tout ce qu'il fabrique, le poulet qu'il fabrique, qu'ils élèvent.
Merci.
Ils ne fabriquent pas. Donc, qu'ils élèvent et qu'il a une responsabilité sociétale. Sauf que ce n'est pas toujours évident pour les gens. C'est toujours mieux, par exemple, d'aller ramasser les œufs, d'aller vendre, et d'avoir son argent pour cette journée à la rentrée et dire qu'on est un freelance, c'est plaisir. Ou bien je suis consultant, c'est mieux, non? C'est plus facile que de dire, bon voilà, je vais avoir un champ, une usine où je vais faire pondre des œufs, et puis y a un risque, et personne ne veut prendre ce risque-là.
Oui, vraiment, il y a un risque que la plupart du temps, nous n'aimons pas prendre.
Okay.
Parce que le challenge, c'est que, comme l'a souligné tout à l'heure, blessé, que nous nous préoccupons trop du aujourd'hui, le quotidien et du lendemain. Parce que, comme le dit, il y a Jésus qui a dit dans la Bible que ne vous préoccupez pas de ce que vous allez manger le lendemain, préoccupez-vous de ce que vous allez manger aujourd'hui et je vais vous donner ce que vous allez manger demain. Okay?
Ouais.
Le challenge ici, c'est que lorsque on veut entreprendre, il faut connaître sa réalité.
Okay.
Okay? Quelle est la raison fondamentale pour laquelle je vais entreprendre?
Okay. Mais parfois, on veut entreprendre parce qu'on veut être libre. C'est-à-dire que j'avais l'habitude de travailler pour quelqu'un et puis ça me prend le matin, midi, soir, on m'écrit là-dessus. Donc, quand je suis en freelance, supposons que je suis un web developer par exemple, mais je suis en freelance, j'ai des contrats, je gère mon temps comme je veux et personne ne m'écrit dessus. Donc, mais est-ce que ça... Mais non, avec ça, je suis plus libre. Mais même si c'est pas c'est dans l'entrepreneur de surface.
Non, bien sûr, tu sais, les gens peuvent dire qu'ils sont libres, ok. Il y a une chose que j'adore chez toi, c'est quand tu dis que lorsque vous travaillez avec quelqu'un, vous ne travaillez pas pour la personne, vous travaillez pour vous-même, ok. À partir de ce moment où, lorsque vous êtes avec quelqu'un et vous pensez que vous êtes en train de travailler pour la personne, vous ferez exactement la même chose lorsque vous travaillez pour vous-même.
Wow. Okay. Est-ce que tu peux développer un peu? Parce que c'est très intéressant ce que tu es en train de dire.
Mais bien sûr, parce que s'il n'y a pas la passion dans ce que vous faites, okay, ou soit s'il y a une responsabilité qu'on vous a confiée, okay, et que vous ne donnez pas à fond. Ouais. Je donne les impressions, c'est comme par exemple les gens commencent le lundi trop frustrés. Okay, tu sens que les gens, ils sont pas du tout, ils vivent pas le travail qu'ils
font. Ils n'ont pas envie d'aller au boulot.
Exactement. Et ils sont prêts à ce que le vendredi puisse sauter du doigt pour venir comme ça. On adore quand on a un vendredi soir.
Okay? D'accord. Et donc, quand tu as cette mentalité-là, tu ne veux pas entreprendre en fait.
Absolument pas.
Non, mais ce que tu dis est tellement intéressant. Je ne sais pas ce que Blessing apprend parce que moi, pour ma vie d'entrepreneur, quand les gens disent quand je vais avoir ma propre entreprise, je serai plus libre, j'aurai plus de temps, je dis mais. De quoi parlez-vous?
De quoi parlez-vous?
Non, mais parce que comme le disait un jour Jean-Baptiste Sativi, comme président du conseil d'administration, président de la chambre de commerce et d'industrie du Bénin, quand on est entrepreneur, on n'est pas libre.
Non.
Tu peux pas te lever du jour au lendemain et dire je suis faible.
Non, tu peux pas.
Tu peux pas. Donc, et puis ensuite, il y a tellement de gens qui dépendent de toi. Donc, c'est à cause de cette liberté-là qu'on va se dire je suis en freelance. Or, le freelance, c'est une autre façon de travailler pour quelqu'un.
Tout à fait.
C'est une autre façon de travailler pour quelqu'un. Et quand on ne fait pas attention à ça, on pense qu'on travaille pour soi-même, alors qu'en réalité, on dépend d'une filière. Donc au départ, on s'est dit, ben voilà, non, je ne vais plus travailler pour quelqu'un. Mais d'une manière ou d'une autre, tu es en train de travailler pour quelqu'un. Et donc, c'est quand on n'a pas cette passion pour pouvoir aller plus loin, prendre un peu plus de risques, s'oublier soi-même, et c'est là où on peut avoir de la difficulté. Très bien. Alors, l'autre façon superficielle d'entreprendre, c'est la consultance. Là encore, bon, en général, hein, moi je comprends, parce que quand même, être consultant, c'est un métier. Maintenant, ce que je suis en train de dire ici, c'est que ce n'est pas entreprendre.
Non.
C'est-à-dire qu'un consultant n'est pas un entrepreneur. Parce que quand on est un entrepreneur, il y a quelque chose de très fondamental, c'est un système.
Un système.
Qui peut être
de la valeur ajoutée. Et surtout, la création de richesses. Donc, valeur ajoutée, donc création de richesses. Quelque chose que j'apporte d'exceptionnel. Donc, qui change les choses, qui améliore les choses. Et surtout, qui peut fonctionner sans moi.
Tout à fait.
Parce que la difficulté quand on est un consultant, c'est que vous vendez vos heures.
Tout à fait.
Vous vendez vos heures et là, vous n'avez pas une entreprise. Donc, je dis à quelqu'un que il y a un monsieur que j'apprécie très bien qui s'appelle Victor Ndjaye. Donc, je crois qu'il est le patron de Performance Group. C'est une entreprise de consultance en management. Sauf que la boîte tourne pratiquement sans lui. Donc, il a réussi à former d'autres consultants, d'autres managers, dont des gens qui gèrent, qui exécutent les missions et il n'a presque pas besoin de mettre la main là-dedans. Donc, ça veut dire que forcément que quand on est consultant à la base, on ne peut pas être un entrepreneur. Mais quand tu prends Deloitte, par exemple, donc c'est des consultants, mais ils ont réussi à transformer ça en un système. Donc, un système qui fait qu'il y a Deloitte au Bénin, il y a Deloitte en Afrique, partout, KPMG, EY, Einstein Young. Donc, ceux-là, ils ont réussi à transformer le métier de consultant en entreprise. Mais quand tu es seul et que tu cherches de temps en temps des contrats et des missions que tu vas exécuter, ce que nous sommes en train de dire ici, tu n'es pas un entrepreneur. Parce que la particularité d'un entrepreneur, c'est qu'il a développé un système qui marche sans lui, ou qui marche partiellement, que sans lui, même s'il n'est pas arrivé à un niveau de développement. Mais pourquoi, selon vous, les gens préfèrent le métier de consultant? Blessing.
Moi, je me demande, est-ce qu'il n'y a pas une mauvaise définition de l'entrepreneuriat?
D'accord.
Est-ce qu'on ne pense pas connaître l'entrepreneuriat alors que dans le fond, on ne sait quasiment rien de l'entrepreneuriat?
D'accord.
En fait, je me dis que si, par exemple, les gens savent vraiment qu'est-ce que l'entrepreneuriat, ils sauront peut-être faire la différence.
D'accord.
Peut-être que je suis sûre que dans certains cas, il y a des gens qui vont en consultance, mais ils se disent que bon, la consultance, c'est l'entrepreneuriat.
OK. Mais en général, ce sont ceux qui parlent plus d'entrepreneuriat.
Oui, en général, ben voilà. Comme dans le fond, on dit souvent, la plupart des gens qui parlent de certaines choses, dans le fond, ne le savent pas.
Ils ne savent même pas de quoi ils parlent, c'est ça? Ah, d'accord. OK. Donc, alors, du coup, on parle de créer un système. Donc, quelque chose qui puisse marcher sans moi. Sinon, je n'ai que 24 heures. Et quelque soit... Parce que l'une des choses dont on se rend compte, c'est qu'en général, moi, j'ai pratiqué le métier de consultant. Et quand on pratique le métier de consultant et qu'on est sur des offres, on est sur des rapports à élaborer, tu n'as personne pour t'assister, c'est extrêmement difficile. Et après... Bah, parfois même tu as des collaborateurs, mais tu es toujours consultant. Pourquoi? Parce qu'ils ne peuvent rien faire. Tu es la seule personne qui peut véritablement faire les choses. Donc, si tu n'as pas le système et tu ne bâtis pas un système que les autres peuvent tourner sans toi, tu es obligé d'être au four monnaie. Et ça, on dit, quand tu es dans ce cas-là, tu n'as pas encore une entreprise. Alors, Samson, on parlait du cas des gens donc, qui font partie d'une filière. Donc, je me rappelle, il y avait eu un challenge entre le gouvernement du Bénin et je crois que c'était deux sociétés, en ce moment, Ariba et puis Télécel, je ne sais plus, ou MTN et Télécel, avant que ça ne devienne MOUF, je pense. Et il a été question que le gouvernement, pendant 2 mois, a mis les deux entreprises hors tension. Et l'une des choses dont je me suis rendu compte, c'est que les agences de communication, les designers, donc qui avaient des contrats mensuels avec ces entreprises-là, du jour au lendemain, c'est comme s'ils n'existaient plus. Donc, comment faire pour que, lorsque j'ai une entreprise, je ne dépende pas trop d'une filière? Donc, on appelle ça les prestataires. Les prestataires aussi, c'est une autre façon de faire du business superficiel, parce que si tu as une agence de com, ou bien un agent de web design ou web development, et que tu dépends d'une seule filière, tu n'as pas une entreprise, et si la filière a de la difficulté, on parle d'une société au Bénin, par exemple, qui s'appelle Glo, qui, voilà, qui a dû couper des déchets avec l'OMA, a fait faillite. Donc, tous ceux qui sont prestataires, ils y passent.
Tout à
Comment faire pour ne pas dépendre d'une filière ou d'une seule entreprise?
fait. Mais c'est une très bonne question. Et fondamentalement, moi, je te parlerai de, par rapport à l'innovation. Okay? L'innovation, je dis, est un élément très important lorsqu'il est question de développer une entreprise. Okay? Ou de quitter cette étape de freelance et de vraiment rester dans le domaine de l'entrepreneuriat vrai. Okay? Parce que lorsque les gens n'innovent pas, ils vont disparaître sur le marché.
Ah, donc si je, ce que j'ai envie de dire, que en fait, il faut commencer par innover
Exactement.
et proposer quelque chose qui intéresse tout le marché.
Absolument, c'est ça.
Donc, si tu n'es adjacé qu'à une, on va dire quoi, une seule
À une
entreprise,
seule entreprise.
une grande
Tout
entreprise
à fait.
qui te, voilà, qui te nourrit, du jour au lendemain, l'entreprise a des difficultés, tu as des difficultés.
Ah ben absolument, c'est ça. C'est le gros défi dont subissent les consultants, particulièrement au Bénin. Okay? Ils sont sous l'ordre des grosses entreprises qui les donnent des marchés. Et quand les entreprises disparaissent sur le marché, elles aussi
Ou bien
disparaissent.
même ont des difficultés.
Absolument, eux-mêmes ont des difficultés en même temps. Okay? Le challenge, c'est rester constamment dans l'innovation. Okay? D'étendre son marché, de quitter l'étape de cette histoire de freelance, elle est vraiment entreprendre, ok, et rester dans la psychologie vraiment de l'entrepreneuriat.
D'accord.
Ok.
Blessing, tu as quelque chose à ajouter?
Moi, ce que je veux dire, c'est que je pensais avoir compris, mais je pense qu'à travers ce podcast, j'ai mieux compris, c'est que l'entrepreneuriat nous appelle à être indépendants. C'est-à-dire que quoi? On est carrément indépendant
On crée une filière.
on crée une filiale et on est carrément indépendant de d'autres filiales. On crée un système et dans le système, on veut nourrir. On veut satisfaire le plus grand nombre de personnes possible. Ce qui signifie que quoi? Comme Samson l'a dit, innovation. Innovation, étude du marché et information. Information, expertise. Quand on réunit tous ces éléments-là, c'est clair qu'on fait des pas pour devenir un entrepreneur en tant que tel. Mais tant qu'on est encore
Dans le
dans le
superficiel.
superficiel, on maîtrise un pied. L'autre pied, il est encore un peu handicapé, si je peux le dire ainsi. On a encore beaucoup, beaucoup d'efforts à faire.
Wow. Super. Et le dernier piège de l'entrepreneuriat superficiel, si on peut ainsi, au-dessus, si on peut ainsi l'appeler, c'est les sous-traitants. Donc, par exemple, quelqu'un a une entreprise de sous-traitance et fabrique des choses pour une autre entreprise. Prenons par exemple Carrefour, qui a des sous-traitants. Donc, il y a des choses qu'on ne peut pas faire, on confie à une entreprise. Et dès qu'on est en difficulté, c'est fini.
C'est vraiment le cas, hein. C'est vraiment le cas parce que lorsque vous observez, bon, je donne un exemple très simple, okay? C'est comme une entreprise, les entreprises qui sont à l'extérieur, okay? Qui ont besoin de développer l'expertise, par exemple en Afrique. Okay? Donc, ils ont des marchés, ils se disent, OK, puisque je ne suis pas en Afrique, il vaut mieux que je sous-traite cela avec les entreprises qui sont en Afrique. Le gros challenge, c'est qu'ils ne maîtrisent pas trop le marché. Okay? Ils ne savent pas quelles sont les réalités qui sont adaptées à nos besoins. Et lorsqu'ils se lancent dans ça, puis ils voient que vraiment, il y a un énorme travail à faire derrière.
Et qui a de la difficulté,
Tout à fait.
il peut décider de fermer du jour au lendemain. Et
Absolument.
le sous-traitant qui a fait tout son plan d'affaires et tout le reste sur cette base-là va se retrouver sans rien.
Sans rien. Et puis lui-même, il va se dire, OK, ah, l'entrepreneur, c'est si difficile comme ça?
Alors que ce n'est pas l'entrepreneur qui est
Non,
difficile.
c'est pas l'entrepreneur.
En réalité, c'est qu'il n'a jamais entrepris.
Absolument.
Donc, il a travaillé indirectement pour une autre personne.
Tout à fait.
Non, parce qu'effectivement, ce que vous dites est tellement intéressant. Le challenge, c'est qu'en général, on travaille, quand tu es sous-traitant, tu es freelance, tu es consultant, tu es prestataire, tu travailles indirectement pour une
Indirectement.
autre personne, sans le savoir en fait. C'est-à-dire que c'est comme quelqu'un me disait un jour, j'étais parti voir un directeur marketing, et puis il y a le directeur général d'une agence conseil qui est venu. Et il dit, ah, tu sais quoi, moi j'ai dit, oui, qu'est-ce qui se passe? Il dit, bah, tu sais, dès demain, je peux dire, voilà, lui va renvoyer ses collaborateurs. Il dit, mais comment tu dis ça? Il dit, non, c'est moi qui les emploie. Il dit, je n'ai pas compris. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Il dit, ah, ben, tiens, oui, bon, je le donne en 45 millions par mois. Et donc, si demain, le contrat est annulé, et lui et ses collaborateurs, paf, ils vont partir. Ça veut dire que, oui, ils font de la prestation,
Bien sûr.
mais ce n'est pas de l'entrepreneuriat.
Tout à fait.
Et parfois, la facilité là-dedans, parce que nous, non, bah, Nous, on a failli tomber dans ce piège à HEC. Hein. Alors, au départ, donc, ce qu'on faisait, c'était très simple. On attendait les entreprises. S'il y a une formation, c'est bon. S'il n'y a pas de formation, on attend.
Okay.
Et donc, on ne décidait pas de lancer les formations nous-mêmes. Jusqu'à ce qu'on a commencé par voir que, par exemple, on peut créer des cours en ligne. Qu'on peut aller vendre, on peut vendre des packages de produits. Au lieu de vendre juste, de vendre juste une formation, on vend un package dans lequel on a des livres, on a de la formation, on a du coaching. Donc ça devient quelque chose de plus tangible qu'on va aller vendre à des entreprises. Ça ne dépend pas de l'humeur d'une grosse boîte. Je me rappelle même qu'en 2015, en Côte d'Ivoire, on a travaillé avec une seule grande entreprise. Il y a une seule grande entreprise. Le reste, le 97 de nos chiffres d'affaires, c'était les particuliers. Et donc, quand tu arrives à créer une filière où tu ne dépends pas des grosses entreprises, parce qu'en général, il y en a qui sont... On devient victime de la crise économique lorsqu'on dépend des grosses entreprises ou de l'État. Une fois. Par exemple, une des choses qui arrive aux gens, ceux qui font, par exemple, la fourniture de services à l'État, tu avais tes amis au pouvoir, dès que tes amis ne sont plus au pouvoir, là, c'est fini. Donc ça dit qu'en réalité, tu n'as jamais créé une valeur réelle. Mais moi, j'ai vu une entreprise qui s'est exportée. Il y a des entreprises, par exemple, Kanazoé, une entreprise qui s'appelait Adeoti, par exemple, au Bénin. Au départ, ils étaient dépendants du régime. Mais ils ont réussi à développer une façon de construire les routes au point où le gouvernement togolais et le gouvernement, qu'on appelle ça, ivoirien, on ne commençait pas à les solliciter. Ça veut dire qu'à partir de cet instant, ils ne dépendent plus d'un régime, et comme l'a dit Samson, parce qu'ils ont réussi à innover. Et nous, les entrepreneurs, ce qui va nous permettre de ne pas être victimes de la crise, de ne pas être victimes des difficultés des grosses entreprises, c'est de réussir à créer quelque chose qui soit valable, non seulement dans notre pays, mais un peu partout, au point où, si ça ne va plus bien dans ton pays, tu peux aller ailleurs. Si ça ne va plus bien avec l'entreprise qui achetait peut-être 50% chez toi, il y a d'autres entreprises auxquelles tu peux rapidement t'intéresser. Et quand on n'arrive pas à atteindre ce niveau-là, effectivement, on est dans un peu d'amateurisme quand même, parce qu'on a peur d'avancer, d'aller mouiller le maillot, de créer quelque chose, parce que l'apport de valeur exceptionnelle est quelque chose qui fait la différence entre la plupart des gens qui essayent d'entreprendre et les vrais entrepreneurs qui ne sont que des créateurs de richesses et qui traînent beaucoup de choses derrière. Vous avez des choses à ajouter? On est presque à la fin de notre podcast. Samson, pour vous?
Oui, si j'ai une chose à ajouter, c'est avant que les gens entreprennent, il faut qu'ils se connaissent mieux.
D'accord. Okay?
Après, savoir qui ils sont réellement, il faut qu'ils développent leur expertise.
Okay?
Faire valoir leurs compétences, faire connaître leurs expertises.
Okay.
Ensuite, il faut rester dans l'innovation constante, okay? Pour ne pas rester dans
le superficiel.
Dans le superficiel, dans la route, qui fait que lorsque les entreprises sur lesquelles ils n'est pas comment on le dit ne pas disparaître avec eux
avec,
comme,
voilà, c'est comme ça.
Donc c'est un travail constant qu'on doit faire, continuer à garder dans son esprit que l'entrepreneur est riche. Si on veut entreprendre vraiment, il faut prendre vraiment le risque d'aller vraiment, et le succès s'annoncera.
Blessing.
Ce que je veux ajouter, c'est qu'il faut une réelle décision. On décide de vraiment entreprendre dans le fond et dans la forme. On décide d'aller contre vents et marées. On décide de s'engager. Et surtout, comme souvent tu aimes l'insister, Herman, il faut se former. Il faut réapprendre. Il faut désapprendre. Il faut se reprogrammer. Il faut s'adapter au système. Il faut être flexible. Et quand on a tous ces caractères-là, c'est clair que même si les choses peuvent être difficiles, ça nous donne une certaine assurance et une certaine foi. Et comme Samson insiste, l'innovation, il faut créer quelque chose de particulier qui va aller au-delà de nos frontières. C'est-à-dire qu'on ne va plus seulement servir les pays, on va servir des continents.
Exactement.
Et même l'humanité. Et après ça, c'est clair qu'on aura accompli vraiment de grandes choses.
Ok. Moi, j'allais ajouter que le monde des affaires, c'est quelque chose de très sauvage et c'est très darwiniste. C'est-à-dire que seuls ceux qui peuvent tenir tiennent. Et donc, si vous ne vous préparez pas et que vous allez être emporté par la moindre crise, donc on voulait rappeler qu'il y a 4 types d'entreprises qui sont facilement emportables par la crise, les freelancers, les consultants, les prestataires et les sous-traitants, et que pour aller de l'avant, il faut innover, il faut élargir son assiette de propositions de valeur, il faut toucher plus de gens et apporter quelque chose d'unique qu'on est pratiquement le seul à apporter, ce qui fait qu'on ne va pas dépendre d'une seule entreprise, on ne va pas dépendre d'un seul marché, on pourra apporter partout où besoin sera son expertise, et là, aucune crise, aucune spécificité liée à un pays ne peut devenir un blocage à notre épanouissement entrepreneurial. En tout cas, ce fut un plaisir pour moi d'avoir été avec vous. Et ceux qui ont aimé ce podcast, bien vouloir le partager dans les réseaux sociaux, partager avec tous ceux que vous pensez que s'ils le suivent, ça peut les aider dans leur développement entrepreneurial. Et surtout, si vous avez besoin de plus d'informations, n'hésitez pas à visiter notre site internet www.hcmagazinestore.com et vous aurez la possibilité de demander des séances de coaching, des formations pour pouvoir développer votre expertise et continuer de réussir en tant qu'entrepreneur. On se retrouve très très prochainement pour un nouveau numéro de Le Challenge des Startups.